RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Alors que la ville de Paris s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques en 2024, on s'intéresse ce matin au sport. Le sport, oui, mais pas uniquement, puisque nous allons regarder de plus près les liens entre le sport et la religion, qui ne sont pas rares, ne serait-ce que dans les valeurs défendues par l'un et par l'autre. Et notez que dans la seconde partie de l'émission, on fera un pas de côté exceptionnellement et on s'intéressera au concours organisé par l'hebdomadaire pèlerin J'aime mon clocher. 12 nominés régionaux du concours parrainé par Stéphane Bern sont en lice et vous pouvez d'ores et déjà voter pour votre lettre et clocher préféré. Mais ça, on vous expliquera à partir de 10h. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages et vos réactions. Est-ce que vous pensez que l'on puisse vivre les valeurs chrétiennes à travers le sport? Savez-vous dans quelle mesure l'Église a participé à la généralisation de la pratique sportive? Et puis de quelle manière, surtout, est-ce que des prêtres, des religieux, des religieuses, sportifs ou sportives, vous inspirent? Si vous êtes sportif vous-même, quel lien faites-vous entre votre foi et votre activité sportive? Et puis, est-ce que vous avez déjà participé à des compétitions ou initiatives sportives organisées par l'Église? Bref, vous avez de quoi témoigner dès maintenant au 04 72 38 20 23. Par mail à direct@rcf.fr et puis dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Avec notre grande sportive Pauline de Torsiac. Bonjour Pauline.
Bonjour Melchior, bonjour à tous. Vous l'avez dit, les Jeux Olympiques d'été auront lieu à Paris du 26 juillet au 11 août prochain, de 2024, pardon, l'année prochaine. Et les Jeux Paralympiques du 28 août au 8 septembre, 20 millions de visiteurs attendus, 15 000 athlètes, pas moins de 45 000 bénévoles, un événement planétaire où l'Église de France est dans les starting blocks. Alors justement, quelles sont les vertus du sport? Quels sont les liens entre la foi et le sport, entre l'Église et les Jeux Olympiques? Comment l'Église compte-t-elle se greffer à cet événement planétaire? Et puis à l'heure où le sport peut devenir religion, que peut apporter la foi? Eh bien, on en parle tout de suite dans Je pense, donc j'agis.
Avec nos trois invités qui nous accompagnent jusqu'à 10h.
Arnaud Boutéon, bonjour. Vous êtes l'un des initiateurs du projet Paris 2024 et Église catholique. Vous êtes le cofondateur du Congrès Mission et vous êtes l'auteur du livre Comme un athlète de Dieu aux éditions Salvator. À côté de vous, Antoine de Montchalin, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 24 ans, vous êtes étudiant à HEC, en dernière année d'HEC, et vous êtes le responsable pastoral justement de l'événement qui va être organisé à Paris, Holy Games, pendant ces Jeux Olympiques. Et puis Joël Thibault, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes un ancien joueur de football, vous accompagnez les sportifs en tant qu'aumônier protestant depuis plus de 20 ans et vous venez de publier L'aumônier des champions, c'est un livre préfacé par Olivier Giroud aux éditions du Cerf. Alors peut-être un petit tour de table parce que vous êtes tous les trois des sportifs, des passionnés de sport. Peut-être quel sport pratiquez-vous? Qu'est-ce qu'il fallait suivre ce week-end comme compétition?
Antoine. Alors je me lance...
Oui, Arnaud Boutéron, allez-y.
Hier soir, j'étais au stade Jean-Bouin pour un match de rugby entre le stade français et l'équipe de Lyon, le Loup. Ah. Et le stade français a été rejoint à la dernière seconde, donc il y a eu 31 partout. Ce qui est intéressant, c'est que le stade français a gagné, menait 28-0 à la mi-temps et il est revenu. Donc... la vie est faite de retournements de situation et si on aime le sport, c'est parce que le sport est un miroir sur notre humanité. Rien n'est perdu.
Et vous pratiquez quoi comme sport? Vous faites du rugby alors, Arnaud Boutéon? Du foot?
Ouais, j'ai plutôt une culture rugby. Aujourd'hui, avec l'âge, les mots, les plaquages, c'est plus difficile. Mais fondamentalement, ma culture est plutôt rugbystique, mais je m'intéresse à tous les sports.
Vous vous intéressez à tous les sports. Antoine de Montchalin, vous êtes un jeune sportif aussi. Quand je vous ai au téléphone, voilà, je crois que vous êtes aussi, vous aimez le sport dans toutes ses dimensions.
Oui, c'est ça. Moi, alors pour commencer, je ne savais pas qu'Arnaud y était aussi, mais moi aussi j'étais à Jean-Bouin hier soir. D'ailleurs, j'ai un peu perdu ma voix, donc je m'excuse d'emblée, mais j'ai perdu ma voix sur les essais de fin de match, même si c'était contre nous. Moi, je joue beaucoup au foot. J'étais dans trois équipes différentes cette année, pour vous donner une indication. J'ai toujours énormément joué au foot. Je suis capable de suivre et de m'intéresser à n'importe quel sport. Il y a quelque chose en moi qui résonne dès qu'il y a un peu de, soit de compétition, soit de d'œuvres sportives. Donc moi je suis, je m'intéresse à tout, absolument.
Vous intéressez à tous les sports. Joël Thibault, bon, vous c'est le foot, hein, évidemment, mais voilà, vous intéressez aussi à d'autres sports. Vous suivez un petit peu l'actualité sportive en général.
Je suis beaucoup l'actualité sportive des joueurs que j'accompagne, ce qui me donne des fois un intérêt même pour découvrir des sports dont j'ignorais l'existence, comme le hockey subaquatique où j'ai accompagné un joueur de l'équipe de France pendant plusieurs années. Après oui, le foot, bon, pour rien vous cacher, hier soir moi j'étais devant le match de l'Olympique de Marseille contre mon club de cœur, contre Angers, mais je supportais Marseille. Mais après une très longue et belle journée à l'église, je me suis endormi après le troisième but et je me suis réveillé. La chaîne était, les commentateurs étaient déjà partis, donc voilà. Petit coup de fatigue devant
petit
le match.
Petit coup de barre. Alors justement, c'est intéressant. Vous êtes toutes et tous des sportifs. Vous aimez ça. Quelles sont justement les vertus selon vous développées par le sport, Joël Thibault?
Alors je pense la persévérance. On est appelé à persévérer jusqu'au bout dans notre foi. Et puis comme disait Arnaud, un match il est jamais fini. C'est ce que je répète aux jeunes joueurs, à mon fils. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé le coup de sifflet final, il faut toujours y croire. Et puis la notion d'humilité, je pense qu'elle est très très importante. Et de bien la définir, j'aime bien comment C.S. Lewis définit l'humilité. C'est pas penser moins de soi, mais penser moins à soi. Donc ce côté altruiste, se donner pour les autres, se dépouiller, j'irais même jusque là, pour avoir un côté christique, pour faire le lien avec notre foi. Et les joueurs qui nous marquent dans l'histoire, c'est ceux qui se sont aussi donnés pour les autres, donc le sens du sacrifice.
Le sens du collectif, la foi, l'humilité, Arnaud Boutéan, c'est ça les vertus du sport, qu'est-ce que vous diriez vous?
Oui, je parlerai également de courage et de force, hein, c'est une vertu cardinale. On a besoin d'avoir ce souffle, cet élan de vie qui fait qu'on se donne, on s'expose, on tombe, on se relève, et puis on poursuit un but, on poursuit un chemin. Et puis un des fruits, c'est un fruit de l'Esprit Saint. La Pentecôte va arriver. C'est votre slogan, celui de RCF, c'est la joie qui se partage. Et c'est une belle définition finalement de ce qu'on peut vivre sur le terrain de sport et autour de la communion sportive qu'on pratique en transpirant avec des baskets aux pieds ou bien devant son canapé. C'est une joie qui se partage, qu'on garde pas pour nous et qui nous permet de vibrer et de nous dilater avec enthousiasme. Et l'enthousiasme, étymologiquement, c'est le transport divin. Donc je crois que toute personne qui est enthousiaste est mue par une force divine. Mais je retiendrai comme vertu principale aujourd'hui une vertu dont on a besoin qui me semble est la force et le courage.
La force et le courage. Antoine de Montchalin, est-ce que la pratique du sport a réveillé chez vous des vertus que vous ne soupçonniez pas?
Oui, alors je me suis fait exactement cette réflexion samedi matin quand je suis allé jouer au foot. Il y a quelque chose dans le je trouve que, alors moi c'est donc dans un match, mais il y a la notion d'être prêt. Il faut, en fait je reprends, j'allais reprendre les vertus cardinales comme l'a dit Arnaud aussi. Les vertus cardinales, il y en a quatre, il y a la prudence, la tempérance, la force d'âme et la justice. Et les vertus cardinales, elles sont considérées comme des pivots sur lesquels notre vie morale peut reposer. Et moi je trouve que le sport a quelque chose à nous, il y a quelque chose de vrai dans le sport. Il y a quelque chose qui se révèle dans le sport, justement pour comprendre un peu ces vertus cardinales. La prudence et la tempérance, c'est un petit peu pour se préserver ou pour savoir choisir ces moments, pour savoir choisir soit les combats qu'on veut mener, soit pour être prêt aux grandes choses. Et la force d'âme, exactement comme le disait Arnaud, qu'on peut relier au courage, c'est la capacité à se donner pleinement au moment où ça compte, au moment où on l'a décidé, et ce avec soit avec une équipe, notamment dans un sport collectif. Moi, il y a quelque chose dans le sport, pour revenir à votre question, où il a fallu, il y a un moment, faut plus transiger au sens de, il faut se donner pleinement. Et moi, je le que ce soit en équipe, que ce soit pour donner le meilleur de soi-même. Et je l'ai dans le sport, ça. Je me sens quand je suis sur un terrain de foot, moi, je me sens totalement impliqué. dans ce que je fais et dans l'équipe. Et c'est quelque chose de très puissant d'avoir à un moment juste ça à faire, mais le faire de toute sa force et de son mieux.
On parle des liens entre le sport et la religion ce matin dans Je pense donc j'agis, et vous avez la parole pour en témoigner. Est-ce que vous pensez vraiment que l'on puisse vivre les valeurs chrétiennes à travers le sport, et si vous-même vous êtes sportif, quel lien arrivez-vous à faire entre à la fois votre foi et bien sûr vos activités sportives? On vous attend au 04 72 38 20 23 et vous pouvez également témoigner par mail à direct@rcf.fr. Pauline, on continue avec nos trois invités jusqu'à 10h.
Oui, Arnaud Boutéon, qui est l'un des initiateurs du projet Paris 2024 et Église catholique, ça s'appelle Holy Games. Antoine de Montchalin, qui est étudiant à HEC, qui va justement être très engagé dans ce projet d'église en lien avec les Jeux Olympiques. Et puis Joël Thibault, vous êtes un ancien joueur de foot, vous accompagnez les sportifs, vous êtes le coach des sportifs en tant qu'aumônier protestant depuis plus de 20 ans. Alors justement, Joël Thibault, quel lien on peut faire entre sport et foi, vous? Je crois que dans votre histoire, ça a été assez déterminant. Vous étiez avant tout un sportif. Et comment vous êtes venu justement y donner un sens spirituel?
C'est surtout que le sport était devenu ma religion, mon Dieu. Là où j'avais mis tout mon sens, tous mes espoirs, et que j'ai réalisé que le sport était limité. En fait, le sport ne fournit pas des réponses aux questions existentielles. Le sport nous rend pas véritablement heureux. Il nous laisse quand même un vide. Il nous procure de la joie, mais cette joie est assez éphémère. En fait, elle est liée à nos performances. Et l'être humain ne peut pas être limité à ses performances. Il ne peut pas être aimé que par ce qu'il fait. Et c'est toute la différence avec le christianisme, c'est que alors qu'on n'était pas aimable, Christ a donné sa vie pour nous et il nous aime alors que nous étions ses ennemis. Donc il y a un paradigme complètement différent. Et c'est ça que j'ai découvert. Et au fil, à mesure de ma marche de foi avec Christ, j'ai ressenti cet appel à aller vers les sportifs, à retourner dans ce milieu où j'étais. Et petit à petit, à partir de 2013-2014, on m'a sollicité pour être aumônier dans des compétitions internationales, jusqu'à aller à Rio et à être sollicité pour Tokyo, et puis maintenant pour Paris 2024 dans le cadre d'une commission d'aumônerie avec la Fédération protestante de France.
Arnaud Boutéon, justement, pour vous, quel lien est-ce que l'on peut faire entre le sport et la foi, en tant que sportif aussi, quel lien on peut faire?
Alors moi, dans mon parcours personnel, le paradoxe, c'est que j'ai comme été évangélisé à l'école de certains champions et de sportifs. Dans les années 2010, j'ai suivi une formation à la chaire européenne de marketing sportif de l'ESSEC, et j'ai été immergé pendant plusieurs mois avec des sportifs de haut niveau, et en les écoutant, en travaillant sur les ressorts du sport, j'ai découvert une réalité assez puissante en étant témoin des vertus humaines de certains sportifs de haut niveau, de relations interpersonnelles. Tout à l'heure, Antoine évoquait les vertus. Je me suis dit, waouh, ces gars ont quelque chose de très profond. Et ça m'a permis de m'interroger aussi sur les finalement, en étant témoin d'une forme de religion sportive. Ça, un peu comme Charles de Foucault a été témoin de la dévotion des musulmans quand il était en Afrique du Nord, je me suis dit waouh, ces gars ont quelque chose de plus. Et j'étais à cette époque un peu immergé dans le monde du business classique, et puis en creusant, en essayant d'écrire sur le sport, j'ai creusé à nouveau ma foi. Et j'ai vu que la réalité chrétienne allait beaucoup plus loin que la réalité sportive, qui m'avait vraiment vraiment attiré. Et donc c'est vraiment mon cheminement, le paradoxe, c'est que avec une forme d'ironie, le sport m'a reconduit à redécouvrir la richesse de la religion chrétienne, qui est la religion du corps, donc de l'incarnation. Et puis de voir à quel point le christianisme n'est pas un moralisme, mais c'est la rencontre avec une personne. Il n'y a pas de valeur sportive, il n'y a pas de valeur chrétienne. Il y a des principes, et notre seule valeur, c'est le Christ, c'est une personne. Et voilà aujourd'hui mon cheminement. Et donc l'intuition, c'est que le sport est ce miroir grossissant sur notre humanité, mais le sport peut être un portail formidable pour creuser plus profondément notre humanité, et plus on creuse, plus on trouve. Et il y a un moment donné où on accède au divin, on accède à une forme de verticalité en se questionnant sur nos souffrances, sur le sens de la vie après la mort, sur la signification de ces privations, sur la joie véritable. Comme le disait Joël, la joie sportive ne va être éphémère, la joie chrétienne, je pense que d'abord on la découvrira là-haut, mais c'est une réalité qui est plus englobante et plus pleine. Voilà mon témoignage. Donc finalement, le sport a été un média vers quelque chose de plus profond, qui était la redécouverte de ma foi chrétienne.
Antoine de Montchalin, dans ces liens que l'on peut faire entre sport et foi, il y a aussi cette notion d'endurance, de combat.
Oui, tout à fait. Moi, je souscris entièrement à ce qu'ont dit Joël et Arnaud. J'aurais pas dit mieux, mais j'aurais voulu dire la même chose. Je pense juste, moi, alors j'ai 24 ans, j'ai toujours eu, le sport et la foi ont toujours eu un rôle très important dans ma vie, assez souvent, jusqu'à mes 18 ans, comme deux piliers qui se parlaient pas forcément. Et puis un jour, alors j'ai déjà vécu des très belles expériences spirituelles au JMJ à Cracovie, donc ça c'était mes 18 ans, cette même année-là. Il y a une amie d'ailleurs que je m'étais faite au JMJ qui, cette année-là, en février 2017, c'est la remontada. Donc c'est le moment où moi, je suis très grand supporter du PSG, et c'est le moment où le PSG perd à Barcelone en se faisant remonter, en perdant totalement ses moyens dans les 5 dernières minutes et en se faisant éliminer de la Ligue des Champions. Je la vois 2-3 jours après, moi j'étais vraiment très énervé, en colère, et elle me dit. Je trouve ça scandaleux. J'ai vu dans le métro des gens qui pleuraient à cause du foot. Tu te rends compte? Les gens pleuraient à cause du foot. Et j'ai dit, heureusement que tu m'as pas vu, parce que moi j'étais comme ça. Et elle me regarde et elle me dit, il y a un moment, il faut que tu choisisses de hiérarchiser, hiérarchiser les choses dans ta vie. Entre une messe et un match de foot, qu'est-ce que tu choisis? Alors j'étais obligé de répondre la messe. Alors c'était une petite anecdote comme ça, mais je crois que ça a toujours été, moi c'est un combat aussi de savoir mettre les choses à leur juste place, et notamment de savoir mettre le sport à sa juste place. Je souscris totalement, moi, à ce qui a été dit avant sur la valeur de la joie chrétienne, qui est incomparable quand on est avec le Christ, quand on lui parle, quand on découvre ce qu'il a à nous dire avec ce qui peut se passer sur un, notamment à la suite d'un match. C'est-à-dire qu'on peut être très très heureux sur le moment. Moi je suis bluffé, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, par l'intensité des moments de bonheur qu'on a à vivre sur un terrain de sport ou autour, mais ça reste éphémère, et voilà. Et moi ça a été une part importante aussi de mettre les choses à leur juste place. Le combat est là aussi dans ma vie.
Et vous, Pauline, vous avez déjà pleuré pour du sport, un match?
Je ne crois pas. Non. Je ne crois pas. Je crois qu'on a un auditeur en ligne.
Oui, c'est Patrice. Patrice, vous êtes à Niort, et soyez le bienvenu. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour, Patrice. Je suis très heureux de rentrer en contact avec vous. J'apprécie toujours votre travail. Et puis aussi avec vos intervenants qui m'ont déjà, bien sûr, ils ont donné les réponses par rapport à ce que je vais dire, mais je vais dans leur sens. Alors voilà, moi j'ai démarré les arts martiaux, j'avais 23 ans, maintenant j'en ai 70, j'ai eu une carrière aussi de compétiteur jusqu'à 32 ans, et ensuite j'étais dans l'enseignement, donc j'ai enseigné, et je suis intervenu dans des structures, prisons, foyers de jeunes, etc., ce qui m'a permis d'avoir des relations humaines intéressantes. Bon. Dans les vertus du sport, il y a une forme, il y a l'engagement. Ça permet de savoir qu'est-ce que ça veut dire, le sens de l'engagement. Et ça, on le retrouve dans la vie, dans nos activités. Mais le sport demande de l'effort, de la persévérance, de l'endurance. Et c'est à la suite de ça, il peut y avoir d'autres vertus qui peuvent se développer, d'un point de vue culturel, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue spirituel. Et quand j'ai lâché un petit peu les activités sportives au niveau de la compétition, il s'est ouvert à moi d'autres formes d'engagement, c'est-à-dire de devenir un pèlerin. Alors je suis parti sur les chemins de Compostelle, je suis parti aussi au Sinaï, en Israël, et je suis parti aussi au Tibet. Donc vous voyez, le sport peut amener toutes ces ouvertures sur le monde, sur les gens, la culture, et par rapport aussi à sa vie personnelle, par rapport à des maladies, par rapport... par rapport aux autres.
C'est l'engagement de toute une vie, hein, Patrice. Et merci beaucoup de nous avoir appelé dans Je pense donc j'agis au 04 72 38 20 23. Joël Thibault, je vous donne la parole. Vous avez entendu, tout comme nous, hein, ce très beau témoignage. Et Patrice qui nous dit l'ouverture du sport dans l'engagement d'une pratique religieuse peut déboucher sur plusieurs voies différentes. Hein. Il a parlé de voies spirituelles, culturelles, philosophiques.
Je trouve ça très intéressant. Moi, je parle de plus en plus en termes d'activité physique et sportive plutôt que de sport en lui-même, parce que l'activité physique est bonne pour notre santé mentale aussi. Je pense qu'il faut encourager les gens qui n'aiment pas le sport, peut-être, ou qui ne s'émeuvent pas devant comme Pauline, mais d'aller faire de la marche, d'avoir une pratique régulière. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans l'auditeur, ce qu'il partageait, c'est moi, à un moment donné, quand j'ai eu un trop plein de compétitions, j'ai même quasi failli faire un burn-out d'un excès de pratiques sportives, je suis revenu au sport comme un matériel pour rentrer en contact avec les gens et prendre soin des gens, et notamment travailler dans la réinsertion. Je travaillais beaucoup avec des marginaux, des délinquants, des gens qui étaient un peu à la marge de l'église, et c'était un moyen d'être avec eux. Et je me rappelle d'un événement qui m'avait marqué avec des jeunes de l'église. On avait organisé un match de futsal avec des demandeurs d'asile, certains donc sans abri étaient là, et des gens qui avaient beaucoup souffert dans leur vie ont fait un match. Et nous, les chrétiens, tellement fiers de gagner, de se donner à fond, au bout de 10 minutes, il y a peut-être déjà 10-0 pour nous. Et là, je me suis arrêté, je me suis dit, mais en fait, est-ce que c'est le sens de nos valeurs? Donc j'ai dit stop, en tant qu'entraîneur de l'équipe, on arrête, on mélange les équipes. Et maintenant, c'est pas nous qui allons briller, on va les faire briller. Et ça a changé tout, et ça a changé une série de matchs qu'on a fait avec eux, où finalement on avait plaisir et on était là pour les aider à se reconstruire et non pas nous les dominer et se faire plaisir, comme souvent c'est ce qui peut se passer, où on veut se mettre en avant plutôt que de se mettre au service.
Alors, du relais de la flamme à la clôture des Jeux paralympiques, la France va être au centre du monde hein, en 2024. Les JO de Paris vont drainer 15 à 20 millions de personnes, 206 nations représentées, 15 000 athlètes, 45 000 volontaires. Je le disais tout à l'heure, c'est une énorme machine. Arnaud Boutéon, comment est-ce que l'Église parvient à se greffer à cet événement?
D'abord, on l'avait anticipé parce que depuis quelques années, il y a plusieurs initiatives autour de du sport et de la foi. Et donc, il y a des grandes amitiés qui se sont constituées. Et puis, les uns et les autres, on savait qu'il y avait quelque chose à faire. Il y a Peggy, a une belle expression, il disait « il faut intercaler le christianisme ». Et on s'est dit qu'il fallait donc intercaler l'Église pour ce magnifique événement. Donc nous sommes tout simplement allés voir les organisateurs en leur disant l'Église est dans sa mission, elle pleure avec ceux qui pleurent, elle se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Donc ça sera un grand moment de réjouissance. Nous savons que vous, organisateurs, vous avez des besoins pour mobiliser la population, pour héberger les champions, leurs familles, etc. Et on va être à votre service. On va être à votre service pour faire écho avec ce que nous sommes à ce grand mouvement d'enthousiasme qui va rassembler des millions de personnes sur notre sol. Et donc le projet de l'Église s'est construit comme ça, sur une rencontre avec les personnes du COJO, avec le soutien du CIO. Donc c'est d'abord des rencontres interpersonnelles avec un esprit d'équipe en disant où voulons-nous aller, et en soi c'est éminemment sportif, avec quelles règles, et derrière les principes ça va être la solidarité, l'hospitalité, en même temps en disant ce que l'on est. Donc ça va être l'évangélisation autour de nos lieux de culte, qui seront des lieux de trafic et enfin de trafic. Quand je dis trafic, c'est de visite et de flux. Donc pour partager cette joie et puis se rencontrer. Donc on est à notre place.
Alors justement, l'évêque de Digne, Monseigneur Emmanuel Gobillard, qui est aussi délégué du Vatican pour les JO, hein, avec Monseigneur Philippe Marsay, évêque auxiliaire de Paris, ont lancé au League Games le 17 avril dernier. Justement, c'est cet événement autour des JO, événement de l'Église. Mais quels sont les liens finalement entre l'Église et les Jeux Olympiques? Ça ne date pas d'aujourd'hui, Arnaud Boutéon.
Non, absolument. Il y a toujours eu autour des Jeux Olympiques des rencontres entre le Vatican, le Saint-Siège et les champions. Le Saint-Siège comme État souverain avec le CIO et le Vatican est reconnu aussi reconnu comme un acteur important aussi du monde du sport par sa capacité à diffuser, à relayer des messages très forts. Il y a toujours eu un accompagnement spirituel des champions qui sont allés puiser aussi leur force, leur énergie dans leur identité et dans leur identité chrétienne. Et puis ils ont aussi ils ont aussi témoigné de leur foi chrétienne sur le théâtre de leurs exploits sportifs. Donc je crois que à travers des relations non seulement institutionnelles mais personnelles, ce sont deux réalités qui se nourrissent les unes les autres et qui se pour un bien supérieur. Et c'est vraiment dans la continuité de tout cela que l'église de France et que toutes les églises se mobilisent autour de l'événement. Et puis l'église aussi a été présente sur le terrain de l'éducation, autour des patronages, mais je crois qu'elle a toujours accompagné aussi les personnes
aussi
dans leur
historique.
Vie. Voilà, exactement.
Bonjour. Alors on va accueillir un auditeur rapidement parce qu'il doit aller au travail après. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Philippe.
On vous écoute, allez-y.
Merci. Alors, donc en sortant du sujet et des témoignages qui ont été donnés, je voulais juste, puisque le témoin a parlé de Peggy, et j'ai rebondi là-dessus parce que vous avez parlé au début de l'émission des vertus cardinales. Peggy était, vous le savez sans évidemment, il a parlé de cette petite fille Espérance qui c'est un thème connu dans son discours, oui. Sa pensée. En tous les cas, je voulais insister sur un fait que, et vous avez parlé aussi de la remontada là, du PSG qui a été battu à la finale et a perdu et est éliminé de la Ligue des Champions. Le fait que dans la fin d'un match, quand tout paraît perdu, l'espérance, cette vertu théologale, peut conduire à des résultats, à inverser ou à aller jusqu'au bout. Et donc, dans le mental d'un sportif, si je puis dire, cette vertu peut l'amener à retourner à un résultat qui paraît désespéré.
Oui, y a l'espérance. Et voilà, ça, c'est important d'en parler. Antoine de Montchalin, vous vouliez prendre la parole tout à l'heure, justement. Vous êtes d'accord avec Philippe ?
Sur l'importance de l'espérance, ah oui.
Exactement.
Ça, c'est quelque chose que je porte beaucoup. Oui, parce que dans tous les sens du terme, moi, l'espérance dans un match, elle est toujours présente, et ça, c'est quelque chose de très vrai. C'est quelque chose sur laquelle a insisté Joël aussi tout à l'heure. Il y a quelque chose de très fort, notamment parce que quand vous êtes soit dans un match, dans un événement sportif, c'est assez paradoxal ce qui se passe, même au niveau de la lucidité, de la concentration. Vous devez être à votre meilleur, et en même temps, il y a quelqu'un en face de vous qui tente de faire les choses comme vous, ou sur les mêmes règles, et un tout petit peu mieux que vous. Et la capacité qu'on a de croire soi-même et avec les autres qu'on va réussir à faire tomber les, enfin, on va réussir à se donner tellement qu'on va parvenir à notre objectif tout en respectant l'adversaire et en respectant que l'adversaire puisse le faire et ait le droit de le faire. C'est une assez belle vision de l'espérance qui est chacun. Il y a aussi toujours quelque chose de supplémentaire mais de beau à aller chercher. Moi, pour donner une petite anecdote, assez souvent à la fin des matchs, j'ai envie de prier. Alors me demandez pas. Enfin, je m'en suis rendu compte quand, à force de sortir de stade, je me suis dit là, il y a quelque chose de vrai. J'ai envie de le confier à Dieu. J'ai envie de le dire à Dieu que ce que j'ai vu faire sur ce terrain, la manière dont cette équipe s'est donnée, etc., ouais, a espéré, a cru en elle. Je le remettais assez à Dieu. Le point que j'avais envie d'ajouter tout à l'heure sur les questions historiques qu'a posé Pauline, c'est que il y a eu une messe d'ouverture des Jeux Olympiques lors de la renaissance des Jeux Olympiques modernes en 1896, avec le père Henri Didon, qui était l'ami intime de Pierre de Coubertin, donc qui était dominicain, qui était le supérieur d'un collège à Arcueil et qui avait auquel on doit la devise des Jeux Olympiques, plus vite, plus haut, plus fort, auquel le CIO a récemment rajouté ensemble. Et le père Henri Didon avait prononcé une messe d'inauguration des Jeux Olympiques à Athènes en 1896 devant 4000 personnes. Donc les liens entre l'Église et l'Olympisme, ils remontent à juste avant la recréation des Jeux Olympiques modernes.
Allez, on va marquer une petite pause dans Je pense donc j'agis. Vous continuez de nous appeler tout comme Patrice et Philippe au 04 72 38 20 23 pour discuter avec nous des liens entre sport et religion. Tiens, je vous propose une chanson, Pauline, que vous pouvez écouter pour faire un peu de sport si ça vous arrive parfois. Clara Luciani, ça vous va?
Très bien, parfait.
En plus, il y a un bon rythme. On l'écoute et on se retrouve.
J'aurais dit I Will Survive, mais bon, c'est...
Non, non, ah bah, on va rester en français. Clara Luciani, respire encore tout de suite sur RCF.
Elle veut pas s'asseoir, elle veut souffrir.
Clara Luciani sur RCF qui attend un heureux événement avec aussi cette chanson « Respire encore » que l'on vient d'entendre sur RCF.
Je pense, donc j'agis. Melchior Gormand, Pauline de Torsiac.
Et nos trois invités, trois fans de sport, Arnaud Boutéon, Antoine de Montchalin et Joël Thibault. Et on continue, Pauline, avec toujours les réactions de chacun d'entre vous. 04 72 38 20 23.
Holy Games, c'est le nom du projet de l'Église de France autour des JO de Paris en 2024. Antoine de Montchalin, vous allez être le responsable pastoral des JMJO. Qu'est-ce que c'est que ça, les JMJO ?
Alors, je suis responsable en effet de toute la pastorale des jeunes du projet Holy Games. JMJO, c'était le nom de code qu'on s'était un peu donné au début pour expliquer qu'on allait s'adresser aux jeunes qui notamment vont partir au JMJ à Lisbonne dans quelques mois, et pour les inviter à revivre, à continuer à vivre cet esprit des JMJ, mais cette fois-ci chez nous, à Paris, dans l'événement mondial qu'on va accueillir. Voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup de similarités entre ces deux événements dans la manière dont on peut le vivre, dont on peut vivre une expérience de vie, une expérience spirituelle, une expérience chrétienne formidable en groupe et en même temps en s'impliquant dans l'accueil et dans l'hospitalité concrètement cette fois-ci. Il y a un peu cette relation entre être accueilli à Lisbonne, rencontrer les chrétiens du monde entier pour pouvoir accueillir cette fois-ci, redonner ce qu'on a reçu un an après.
Comment ça va se passer concrètement, justement, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, ces jeunes, comment ils vont pouvoir s'engager autour de cet événement planétaire?
Alors le but, c'est de rassembler 2500 jeunes de toute la France, de jeunes catholiques de tous les diocèses de France. En fait, comme l'a dit Arnaud tout à l'heure, il y a cette mission Holy Games, ce projet a un certain nombre d'activités, d'actions qu'il va pouvoir mener au cœur de l'été. Et pour ça, il faut du monde. Et quand on parle, eh bien, notamment aux curés, mais aux paroissiens aussi, parisiens, franciliens, ils sont pas tous sûrs d'être présents au cœur de l'été. Voilà. Le but, c'est de faire en sorte que ce soit les jeunes qui puissent s'impliquer et les remplacer. On peut faire en sorte que cette église francilienne puisse vivre au cœur de l'été. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est on va les loger dans des paroisses. Et ce qu'ils vont faire, c'est faire toutes les actions dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc, l'animation des parvis, le fait d'aller de tous les parvis d'église, le fait de faire visiter les églises, d'aller dans les stades avec des personnes en situation de précarité pour lesquelles on est justement, c'était le sujet de ce matin, en train de prendre des places pour eux. Pour pouvoir les amener avec quelques jeunes qui vont pouvoir aller avec des personnes de la rue, des personnes défavorisées dans les stades. Le fait de pouvoir accueillir dans les grands sanctuaires parisiens et franciliens, Montmartre, Saint-Denis, sur le parvis de Notre-Dame, d'avoir des temps de prière en permanence pour les sportifs. Et puis, il y a toute la question de l'aumônerie des athlètes au village olympique. Alors ça, c'est pas moi qui m'en occupe. Peut-être qu'Arnaud en parlera mieux que moi. Mais voilà, qu'on soit dans la ville, il y a aussi la question de la fan zone à la Madeleine qu'on espère avoir pour pouvoir être à deux pas des compétitions et pouvoir confier les athlètes et les sportifs et les touristes qui viendront à Dieu directement en faisant, parce qu'il y aura une chapelle Notre-Dame des sportifs à la Madeleine à partir du 9 septembre prochain, qui sera consacrée le 9 septembre prochain, et confier tout ce qui va se passer à Dieu, sous le regard de Dieu. Et puis, on dit à ces jeunes, venez faire des routes d'été avec nous, on est en train de prévoir tous les espaces qu'il faut à Paris pour avoir des temps de louanges, de prières, de formation entre jeunes aussi, pour que ce soit des vrais JMJO.
Alors l'obligation d'avoir une aumônerie sur le village olympique, c'est dans le cahier des charges de l'organisation, vous l'aviez dit au début de cette émission. Joël Thibault, en tant qu'aumônier, vous connaissez cela de l'intérieur, comment ça se passe concrètement? Quel est votre rôle auprès des sportifs, des athlètes de haut niveau? De quoi ont-ils besoin justement dans ces compétitions?
Alors cette aumônerie, elle remonte à après 1972 et les attentats des JO à Munich, et notamment la communauté israélite qui a été touchée et donc qui a montré un besoin d'assistance spirituelle face à des drames, face à la mort, aux questions qui se posent derrière. Et donc on est là pour tous ces sportifs qui peuvent passer par des moments difficiles et des fois des moments qui sont pas liés à leurs résultats sportifs, à leurs performances. Il est pas rare que des sportifs qui soient à des milliers de kilomètres de chez eux passent par des drames familiaux, et vers qui se tourner dans ces moments-là ça peut être parfois difficile de se tourner vers un de ces coachs qui pourrait nous mettre de côté, besoin de trouver quelqu'un de neutre. C'est aussi des espaces de solidarité, d'entraide. En fait, comme les Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques sont un lieu de fête, un lieu de rencontre, ça arrive que tous les 4 ans, c'est un lieu où on peut se retrouver avec des personnes qui sont de différentes nationalités, qui sont différentes de moi, qui pratiquent des sports différents, mais qui ont un but commun, une recherche spirituelle et aussi une pratique de la foi. Donc normalement, dans un centre multifoi, comme c'était le cas, comme je l'ai vécu à Rio, il y a cet espace où chaque religion a un espace qui lui est attribué et où chacun peut venir célébrer à certains moments, mais aussi trouver des aumôniers qui sont là pour les accueillir, avoir une écoute bienveillante et aussi proposer, pour ceux qui le désirent, un accompagnement à la prière, un temps de recueillement, un temps d'écoute de la parole, un temps d'encouragement, parce que dans ces moments-là, on a besoin de trouver la paix, la sérénité et puis de l'encouragement pour pouvoir se préparer à des compétitions et aussi digérer une épreuve qui a pu être difficile. Et comme on dit souvent dans nos formations d'aumôniers, on vit l'inverse de ce que les gens vivent dans la vie. C'est plutôt 4 enterrements pour un mariage, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui échouent que qu'ils réussissent. Et dans ces moments-là, il faut être là pour avoir une parole de réconfort. Et dans ces moments d'aumônerie, j'ai vu des très belles choses où des sportifs entre eux. Arnaud parlait de pleurer avec ceux qui pleurent. Bah, il y a beaucoup de sportifs qui pleurent parce que préparer une Olympiade, c'est 6 ans, au moins 6 ans d'une vie, d'une préparation pour un instant qui va être fragile, éphémère. Et des fois qui n'aboutit pas à la réussite, et de voir ces sportifs s'encourager, venir chercher l'aide des aumôniers, trouver la prière. Et j'ai vu des très belles histoires, comme je raconte dans mon livre, de ce sportif qui repartent et 2 ans après regagnent une médaille, finissent champion du monde. Et il y a eu ces petites choses qui se sont passées en coulisses et qui est la beauté de l'Église aussi, de trouver ce réconfort dans l'épreuve.
Alors, il y a ce réconfort dans l'épreuve, mais voilà, vous qui vivez ça de l'intérieur, quelle place tient la foi pour ces athlètes? Est-ce qu'ils sont nombreux à voilà, être croyants? Qu'est-ce que vous retrouvez de ça?
Il y a eu des, par exemple, si vous prenez sur les Commonwealth, qui sont les sortes de Jeux Olympiques pour les îles britanniques, j'ai vu des cérémonies où il y a plus de 200 athlètes qui viennent pour un temps de célébration, être dans la joie, en chantant, en venant pour Dieu. Et puis il y a tout ce qui se passe après en sous-groupe, en petit comité. Il y a aussi des fois des équipes nationales en fonction de la culture. C'est pas rare que dans le rugby à 7, qui est une discipline olympique, l'ensemble de l'équipe, pour les Fidjiens par exemple, veulent venir pour avoir un temps de bénédiction. Il y a après ces gens qui vont venir tels des Nicodèmes discrètement ou qui vont nous solliciter pour venir les visiter dans leur appartement ou les accompagner sur les lieux de compétition aussi. Il y a tous ces athlètes qu'on peut connaître en amont, d'avoir une présence qui rassure, qui apaise dans un milieu hyper compétitif, hyper stressant aussi pour l'attente de résultats.
Un milieu aussi où
des personnes qui sommes neutres.
Où on parle beaucoup d'argent. Enfin voilà, il y a quand même la pression des sponsors, il y a la performance. C'est aussi, ça peut être violent.
Ça peut être très très violent pour des sportifs, effectivement. Et là, d'avoir une parole qui vient du Christ, qui est ce Dieu qui pourvoit, de pouvoir amener cette paix aussi, c'est quelque chose que les sportifs recherchent de plus en plus. On a mis, comme ça a été le cas dans ma vie, le sport tellement haut et il est devenu tellement grand que finalement on est dans un retour avec une quête de sens, d'identité aussi. Et je crois que le christianisme a des choses à dire et il faut pas avoir honte de les affirmer. Sauf que ça sera pas des lieux de prosélytisme, mais c'est un lieu qui est mis à disposition. Et ça, le CIO l'a bien compris depuis plusieurs années, parce que ces athlètes partent loin de chez eux pendant plusieurs semaines et c'est un lieu dans lequel ils peuvent se ressourcer.
Un message de Jean-Jacques qui nous a laissé par mail à direct@rcf.fr. On ne peut pas parler sport sans évoquer la place de l'argent et de la violence dans ce domaine. Comment les valeurs chrétiennes peuvent-elles trouver leur place pour améliorer la situation? Qu'en pensez-vous, Arnaud Boutéon? Il a raison, hein, Jean-Jacques.
Absolument, il a raison. Dans le sport, en particulier le sport de haut niveau, le sport professionnel, le sport business, on est tout le temps sur une ligne de crête. Mais il y a ce qui se vit aux Jeux Olympiques avec un esprit très amateur. Et ce qui se vit dans les fédérations autour des championnats du monde, ce qu'on a pu vivre avec la Coupe du Monde, la FIFA, l'UEFA, où là on est au cœur du sport business avec des enjeux colossaux autour des transferts, etc. Mais là où il a complètement raison, c'est que le sport va venir révéler des tensions que nous-mêmes à notre place on peut vivre, et c'est des tensions vraiment entre des forces de prédation. Et d'idolâtrie, prédation pour se servir de l'autre, pour idolâtrer son ego, pour instrumentaliser les autres, pour faire de son adversaire un ennemi, etc. Ou bien des forces de communion et de coopération, où l'adversaire c'est celui qui me fait grandir, c'est celui qui va élever le niveau de jeu, qui va me permettre d'aller creuser plus profond pour me révéler. Et effectivement, moi par exemple personnellement, je suis très inquiet aujourd'hui du phénomène du supporterisme et du phénomène des ultras et de toute cette charge émotionnelle très très forte en période dans une société aussi qui est en quête de repères et d'identité, où on va transférer des besoins d'identité autour de son club. Et le joueur qui est célébré va devenir demain l'ennemi à abattre. Mmh. Et donc le sport, de façon un peu exacerbée, et c'est là que tout à l'heure Antoine évoquait aussi des vertus de prudence, de tempérance, etc., nous place en permanence sur une ligne de crête. Mais je tiens à préciser auprès de l'auditeur, c'est que les Jeux Olympiques sont relativement préserver en tout cas de la puissance du sport business. Par exemple, il n'y aura pas une présence un peu agressive des marques dans l'enceinte des stades dans lesquels il y aura les épreuves olympiques. On n'est pas du tout dans cette dimension mercantile kitsch qu'on retrouve dans d'autres types de compétitions autour des sponsors. Vraiment, dans l'ADN et dans l'histoire des Jeux Olympiques, on est beaucoup plus autour de la valorisation du travail de l'athlète et avec quelque chose de beaucoup plus désintéressé. Par exemple, la médaille d'or ne fait pas l'objet d'une prime à colossale en termes d'argent et de prize money. On est vraiment dans une reconnaissance qui va être beaucoup plus symbolique et puis au milieu du concert des nations.
Mmh. À Arnaud Boutéon, on parlait justement de la présence auprès des athlètes. Dans le cadre de ce projet Holy Games, il va y avoir justement cette présence, ce soutien aussi spirituel auprès des athlètes.
Ouais, absolument. Les champions sauront. Alors, il y aura tout un travail un peu d'organisation et de préparation jusqu'aux Jeux Olympiques, où il y aura des aumôniers, des chapelains ou des personnes laïques, même des religieuses, qui vont se manifester, qui auront pour pouvoir accompagner et accompagner par la prière, le soutien psychologique, l'écoute des champions qui participeront à l'événement. Donc là c'est là encore c'est un travail de rencontre qui va se mettre en place, et puis pendant l'événement nous aurons des aumôniers polyglottes qui seront dans les lieux de culte, qui seront au cœur du village autour de l'aumônerie, de la même façon qu'il y a des nutritionnistes, des kinésithérapeutes, des coachs, eh bien il y aura des chapelains et des aumôniers qui seront à disposition des champions pour les aider. Et puis à un niveau plus ecclésial, chaque diocèse est appelé à avoir une sorte de référent Holy Games, et puis pour capter aussi des informations sur le terrain, des informations autour de champions qui pourraient se préparer pour les Jeux Olympiques. On va certainement aussi avoir un système de parrainage. Dès qu'on aura la liste de tous les athlètes qui composeront la délégation française, on proposera à des jeunes chrétiens de prier pour eux, d'identifier un champion, et il saura qu'il y aura toute une équipe priante qui se mobiliseront pour faire en sorte que ces jeux ne soient pas un exercice de pression psychologique ou bien de célébration idolâtre, mais un vrai événement de joie et de réjouissance dont l'athlète sera le témoin. Et quelle que soit sa performance, il sera le témoin d'une réalité qui le dépasse. Et il y aura des priants qui seront autour de lui.
On entend que c'est une très belle organisation, en tout cas Arnaud Bouteillon. Marielle est avec nous. Bonjour Marielle.
Bonjour Marielle.
On vous écoute, allez-y.
Le thème de votre émission m'a fait penser à un petit livre qui a été écrit il y a quelques années par un prêtre, je crois, qui a été arbitre. Je ne suis pas sûre du nom, mais il me semble que c'est Bruno Sautereau.
Absolument.
Petite spiritualité du foot. Un petit livre qui s'emmène assez facilement parce que je crois que c'est un format poche. Et je trouve que les parallèles entre le foot et la spiritualité est très bien expliqué. Étudié dans ce livre. Il est très facile d'accès, des ados peuvent même le lire. Et moi qui suis enseignante, je dis à mes élèves que tout devoir sur table se prépare comme un entraînement sportif, comme à l'image d'un examen, d'une épreuve sportive. Quoi.
Bruno Sautereau, qu'on a déjà reçu dans Je pense donc j'agis pour une émission l'année dernière, Petite spiritualité du foot, c'était à l'occasion de l'Euro 2016 hein, à l'époque et c'est sorti chez Bayard. Vous connaissez, Joël Thibault, ce livre et cet homme?
Oui, je l'ai lu, j'ai eu l'occasion de rencontrer Bruno, de voir tous les parallèles. Ce que j'aimerais compléter sur deux points, c'est cette question de l'espérance. Alors moi, je fais souvent la différence entre l'espoir et l'espérance. Le sportif est rempli d'espoir, mais il a souvent peu d'espérance. Et l'espérance chrétienne a un message qui nous amène beaucoup plus loin que notre vie sur terre, et c'est tout le sens aussi du message de Christ. Et après une pandémie comme on a vécu, même si c'est loin derrière nous, le monde a eu besoin de découvrir aussi ce sens de l'espérance, de la vie après la mort. Et je crois que le christianisme apporte beaucoup de questions par rapport à ça. Et de grands champions, quand ils gagnent des médailles, se disent mais c'est juste ça. Ça peut paraître bluffant pour nous. Ils arrivent et ils le verbalisent. Finalement, ce qu'on a mis comme un graal, c'est pas le summum. Il y a encore plus. Et Jésus veut nous amener encore plus à découvrir une plus grande gloire et la gloire de sa présence dans la vie éternelle. Et puis l'autre chose pour compléter ce que disait Arnaud sur l'aumônerie, aux Jeux Olympiques à Paris, il va y avoir une aumônerie multiconfessionnelle, multifoi, pour représenter l'ensemble des participants qui vont venir du monde entier. Et comme dans chaque grande compétition, il y a les cinq religions principales qui sont représentées. Et puis il y a un travail qui se fait main dans la main entre l'Église catholique et la Fédération protestante de France aussi, qui est un symbole fort d'unité dans ces espaces qui vont nous être attribués, parce qu'on a un espace pour les chrétiens et qu'on doit se partager, et aussi avec les orthodoxes.
En deux mots, parce qu'il nous reste vraiment une minute, quel rôle justement peuvent jouer les athlètes dans la transmission de la foi? On voit souvent les tatouages, les signes de croix, etc. Mais voilà, quel rôle ils peuvent jouer en vraiment 15 secondes chacun? Joël Thibault.
Des passeurs de témoins, des gens qui nous décentrent d'eux-mêmes pour nous amener vers Christ.
Arnaud Bouteillon.
Ils peuvent être le témoin, des témoins d'une joie qui vient de l'exercice de vertu, endurance et audace.
Endurance, audace. Antoine de Montchalin.
Mais ils ont une telle écoute, on est tellement prêt à les écouter que déjà, c'est un peu ce que disait Joël, mais quand ils font l'effort de sincérité pour nous expliquer la forme de vérité, ce qu'ils vivent véritablement, ça nous apprend beaucoup.
Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous partager votre amour du sport, votre foi aussi. Arnaud Bouteillon, merci. Vous êtes l'un des initiateurs du projet Holy Games. Vous êtes le cofondateur du Congrès Mission. Je renvoie les auditeurs à votre livre « Comme un athlète de Dieu ». C'est aux éditions Salvator. Merci Antoine de Montchalin. Vous allez vous occuper justement de la pastorale de ces Holy Games. Et puis Joël Thibault, vous accompagnez les sportifs en tant qu'aumônier protestant. Vous venez de publier L'aumônier des champions, c'est un livre préfacé par Olivier Giraud aux éditions du Cerf. Merci à tous les trois.
Merci d'avoir été avec nous. Merci Pauline de Torsiac.
Merci Melchior, à bientôt.
Dans un instant, exceptionnellement, alors vous savez, on aime lier les deux parties, je pense, donc j'agis. Mais là, dans la seconde partie, on va parler d'un concours. Et là, on en a déjà beaucoup évoqué hein, sur RCF. J'aime mon clocher pour rendre hommage d'une certaine manière au clocher de vos villes, de vos villages. Et on va en discuter dans un instant, toujours avec vos appels au 04 72 38 20 23. Vos messages par mail également à direct@rcf.fr. À tout de suite.